Chapitre 4. Tom doit venir. Ce fut un pénible désappointement pour Maggie que de ne pas avoir la permission d'aller en cabriolet avec son père chercher Tom pour le ramener de l'académie. Mais la matinée était trop humide, dit Madame Taleva, pour laisser sortir une petite fille avec son plus joli chapeau. Maggie voyait la chose d'une manière tout opposée, et la conséquence directe de cette différence d'opinion fut que, tandis que sa mère s'occupait à brosser l'indocile chevelure noire, Maggie s'esquiva soudainement de ses mains et plongea sa tête dans un bassin d'eau qui se trouvait à portée pour se venger, en rendant impossible toute frisure ce jour-là. « Maggie, Maggie !» s'écria Madame Taleva, s'asseyant désespérée et posant les brosses sur ses genoux. « Que t'arrivera-t-il si tu es si méchante ? Je le dirai à tante Glegg et à tante Pallet quand elles viendront la semaine prochaine. Et elles ne t'aimeront plus du tout. Bonté du ciel, regarde ton sarrau propre. Le voilà mouillé du haut en bas. Les gens diront que c'est une punition que d'avoir une telle enfant. Ils croiront que j'ai fait quelque chose de mal. » Avant la fin de cette semonce, Maggie était déjà loin, se rendant au grand galetas qui s'étendait sous le vieux toit aigu, secouant l'eau de ses mèches noires tout en courant, comme un jeune caniche qui s'échappe du bain. Ce galetas est la retraite favorite de Maggie les jours de pluie, quand le temps n'est pas trop froid. C'est là qu'elle donne cours à ses accès d'humeur, qu'elle parle à haute voix au plancher, aux tablettes vermoulues et aux noirs chevrons festonnés de toiles d'araignée. C'est là qu'elle garde une victime qu'elle immole à tous ses chagrins. C'est le torse d'une grosse poupée de bois qui, naguère, regardait fixement avec les yeux les plus ronds du milieu des joues les plus rouges et qui est maintenant entièrement déformée par une longue carrière de souffrances expiatoires. Trois clous plantés dans la tête rappellent autant de luttes difficiles dans les 9 années de l'existence de Maggie. Ce luxe de vengeance lui a été suggéré par une image de la vieille Bible représentant Jaël immolant Sisera. Le dernier clou a été enfoncé par un coup plus violent que d'ordinaire, car à cette occasion, la victime représentait tante Glegg. Mais immédiatement après, Maggie réfléchit que si elle y plantait tant de clous, elle ne pourrait pas si facilement s'imaginer que cette tête bardée de fer souffrait quand elle la frappait contre le mur, ou qu'elle était satisfaite quand elle-même faisait semblant de lui mettre un cataplasme, une fois sa fureur apaisée. Car on pouvait avoir pitié même de tante Glegg quand elle avait été assez maltraitée et complètement humiliée pour demander pardon à sa nièce. Dès ce moment, Maggie ne planta plus de clous dans cette tête, mais jugea suffisant de la frotter et de la frapper alternativement contre les rudes briques des grandes cheminées formant les 2 piliers carrés qui supportent le toit. Voilà ce qu'elle a fait ce matin en arrivant au galetas, sanglotant avec une violence qui bannit tout autre sentiment, même le souvenir du chagrin, cause première de sa colère. Enfin, comme les sanglots se calmaient, et que par suite le frottement de la poupée devenait moins vigoureux, un rayon de soleil tombant soudain à travers le treillis de fer, sur les étagères vermoulues, lui a fait jeter sa victime pour courir à la fenêtre. Le soleil se découvre, effectivement. Le bruit du moulin paraît de nouveau gai. Les portes du grenier sont ouvertes, et voilà Yap, l'étrange terrier blanc et brun, avec une oreille retournée en arrière, qui trotte par là et flaire vaguement, comme s'il cherchait un compagnon. C'est irrésistible. Maggie secoue ses cheveux en arrière, descend en courant, saisit son chapeau sans le mettre, guette de l'œil, s'élance le long du corridor dans la crainte de rencontrer sa mère, et se trouve bien vite dehors, dans la cour, pirouettant comme une pitonisse en chantant « Yap, Yap, Tom revient à la maison !» tandis que Yap saute et aboie autour d'elle, comme pour dire que si l'on a besoin de bruit, il est là pour en faire. « Eh, hey, miss, vous vous donnerez le vertige et vous tomberez dans la boue !» dit Luke, le garde-moulin, grand homme de 40 ans, aux larges épaules, aux yeux et aux cheveux noirs, et recouvert comme une auricule d'une poussière farineuse. Maggie cessa de tourner et dit, en chancelant un peu, « Oh non, ça ne me donne pas le vertige, Luke. Puis-je entrer au moulin avec vous ?» Maggie aimait aérer lentement dans ces grands espaces du moulin, et elle en ressortait avec ses cheveux noirs poudrés d'une douce teinte blanche qui faisait briller ses grands yeux d'un nouveau feu. Le vigoureux tapage, le mouvement incessant des grandes meules, la plongeait dans une extase confuse et délicieuse à la vue de cette force irrésistible. La farine qui tombait, tombait toujours. Cette jolie poudre blanche, qui en se répandant sur toutes les surfaces, faisait ressembler les toiles d'araignée à des dentelles féeriques. Le doux parfum de la farine, tout contribuait à faire croire à Maggie que le moulin est un petit monde à part où elle puise sa vie de chaque jour. Les araignées étaient surtout un sujet de curiosité pour elle. Elle aurait voulu savoir si elles avaient quelque parenté en dehors du moulin, car dans ce cas, leur relation de famille devait être difficile. Une grosse et poudreuse araignée, habituée à manger une mouche bien recouverte de farine, devait un peu souffrir à la table d'une cousine où la mouche était servie au naturel, et les dames araignées devaient être mutuellement choquées de l'apparence l'une de l'autre. Mais la partie du moulin que Maggie préférait était l'étage le plus élevé, le magasin à blé, où il y avait de grands tas de grains, sur le haut duquel elle pouvait s'asseoir et se laisser glisser. Elle avait l'habitude de prendre cette récréation tout en causant avec Luke, pour lequel elle était très communicative, désirant qu'il eût une aussi bonne opinion de son intelligence que l'avait son père. Peut-être sentait-elle nécessaire de reconquérir sa position auprès de lui, à cette occasion, car tout en se laissant glisser sur le monceau de blé près duquel il était occupé, elle lui dit de cette voix aiguë qui était nécessaire pour dominer le bruit du moulin « Je crois que vous ne lisez jamais d'autres livres que la Bible, n'est-ce pas, Luke ?»« Non, miss, et pas beaucoup de celui-là, » dit Luke avec une grande franchise. « Je ne suis pas un grand liseur, non. »« Mais si je vous prêtais un de mes livres, Luke ?»« Je n'en ai pas d'autres très jolis que vous puissiez lire facilement. » Mais il y a le Tour d'Europe de Pag, qui vous dirait tout sur les différentes espèces de gens dans le monde, et si vous ne pouviez pas comprendre la lecture, les images vous aideraient. Elles montrent l'air et les manières des hommes et ce qu'ils font. Il y a les Hollandais qui sont très gras et qui fument, vous savez, et il y en a un qui est assis sur un baril. Non, miss, je n'ai pas bonne opinion des Hollandais. Il n'y aurait pas grand profit à apprendre quelque chose sur leur compte. Mais ils sont nos semblables, Luke. Et nous devons connaître ce qui concerne notre prochain. Pas trop notre prochain, je crois, miss. Tout ce que je sais, c'est que mon vieux maître, qui en savait long, avait coutume de dire « Si je sème jamais mon froment sans le saler, je suis un Hollandais », qu'il disait. Et c'était comme s'il avait dit qu'un Hollandais est un imbécile ou approchant. Non, non, je ne vais pas m'embarrasser des Hollandais. Ils sont assez lourds et assez coquins pour ne pas aller les chercher dans les livres. « Oh, bien !» dit Maggie, un peu déroutée par les vues arrêtées et inattendues de Luke au sujet des Hollandais. « Mais peut-être aimeriez-vous mieux la nature animée. Ce ne sont pas des Hollandais là-dedans, mais des éléphants et des kangourous, et le chat civet, et le poisson-soleil, et un oiseau qui s'assied sur sa queue. J'oublie son nom. Il y a des pays pleins de ces créatures, au lieu de chevaux et de vaches. Ne seriez-vous pas bien aise d'en savoir quelque chose, Luke ?»« Non, miss !» J'ai à tenir mes comptes de la farine et du blé. Je ne puis suffire à savoir tant de choses en dehors de mon ouvrage. C'est ce qui mène les gens en prison que de tout savoir, excepté ce qui peut leur faire gagner leur pain. Et je crois que presque tout ce qui se trouve dans les livres n'est que menterie. Ces feuilles imprimées sont en quelque sorte comme ce que les hommes crient dans les rues. Alors vous êtes comme mon frère Tom, Luke, dit Maggie, désirant donner un tour agréable à la conversation. Tom n'aime pas à lire. J'aime si tendrement Tom, Luke, plus qu'aucune autre personne au monde. Quand il sera grand, je tiendrai sa maison et nous vivrons toujours ensemble. Je puis lui dire tout ce qu'il ne sait pas, mais je crois que Tom est très habile, bien qu'il n'aime pas les livres. Il fait de superbes cordes de fouet et de jolies cages pour les lapins. Ah, dit Luke, mais il sera joliment fâché de ce que tous les lapins sont morts. « Mort !» s'écria Maggie en s'élançant de son tas de blé. « Comment, Luke ? Quoi ? Celui à oreilles pendantes ? Et aussi le tacheté pour lequel Tom avait dépensé tout son argent ?»« Aussi mort que des taupes, » dit Luke, tirant sa comparaison des cadavres non douteux cloués contre le mur de l'écurie. « Oh, ciel, Luke !» dit Maggie d'un ton désespéré, tandis que de grosses larmes coulaient sur ses joues. « Tom m'avait dit d'en prendre soin, et je l'ai oublié. » « Que ferais-je ? C'est que, voyez-vous, miss, ils sont bien loin dans cette cabane aux outils, et ce n'était l'affaire de personne de les surveiller. Je crois bien que maître Tom m'avait dit à Henry de leur donner à manger, Mais on ne peut pas compter sur Henri. C'est une créature de peu de valeur, comme il n'y en a jamais eu par ici. Il ne pense qu'à son estomac, et je voudrais que ça pût l'étouffer. Oh, Luke, Tom m'avait dit de ne pas oublier le lapin un seul jour. Mais comment le pouvais-je, quand cela ne me venait pas en tête, n'est-ce pas? Oh, il sera si en colère contre moi, je le sais, et si fâché pour ses lapins. Moi aussi, cela me fait bien de la peine. Oh, que dois-je faire? Ne vous tourmentez pas, Miss, dit Luke pour la consoler. Ce sont de vilaines bêtes que ce lapin à oreilles pendantes. Peut-être qu'ils seraient morts quand même ils auraient eu à manger. Les choses contre nature ne prospèrent jamais. Le Dieu Tout-Puissant ne les aime pas. Il a fait les oreilles de lapin pour qu'elles se renversent en arrière. Et c'est une contradiction de vouloir les faire pendre comme celles d'un matin. Maître Tom s'y connaîtra mieux une autre fois et n'achètera plus de telles bêtes. Ne vous tourmentez pas, Miss. Voulez-vous venir à la maison avec moi, voir ma femme? J'y vais à la minute. » Cette invitation offrait une agréable diversion au chagrin de Maggie, et ses pleurs cessèrent peu à peu comme elle se rendait à côté de Luke à une chaumière qui se trouvait, avec ses pommiers et ses poiriers, et de plus un enclos pour les porcs, tout près du bord de la Ripple. Madame Moggs, la femme de Luke, était décidément une agréable connaissance. Elle exerçait son hospitalité avec du pain et de la mélasse et possédait plusieurs œuvres d'art. Maggie oublia pour le moment qu'elle avait bien des causes de tristesse en restant assise sur une chaise à regarder une remarquable collection d'images représentant l'enfant prodigue dans le costume de Sir Charles Grandison. Mais, ainsi qu'on aurait pu s'y attendre du manque de moralité de son caractère, il n'avait pas, comme le héros du roman anglais, le bon goût et la force d'esprit de se passer de perruque. Le poids indéfinissable que la mort des lapins avait laissé sur l'esprit de Maggie lui faisait éprouver une plus grande pitié que d'habitude pour les infortunes de ce jeune homme faible, surtout quand elle voyait la peinture qui le représentait appuyée contre un arbre, le costume débraillé et la coiffure de travers, tandis que les porcs, apparemment de quelque race étrangère, paraissaient l'insulter par leur entrain à manger des fèves. « Je suis bien aise que son père l'ait de nouveau accueilli. Et vous, Luke ?» dit-elle, car il était bien repentant et décidé à ne plus se mal conduire. « Eh, Miss, dit Luke, je ne crois pas qu'il en soit résulté grand-chose de bon, quoi que son père ait voulu faire pour lui. » Ce fut une triste pensée pour Maggie, qui aurait beaucoup désiré que la fin de l'histoire du jeune homme ne fût pas restée inconnue.